sentez? Est-ce que ce besoin de relations chaleureuses vous habite? Est-ce que ce besoin de repères, vous le connaissez? En tant qu'adulte, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez là?
Je vais repréciser ma question. Est-ce que selon vous, c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui? Vous nous avez énuméré un certain nombre de besoins. Ils sont de tout temps, hein? On a l'impression qu'ils sont de tout temps, ces besoins, effectivement. Ma question, elle s'ancre dans notre quotidien, aujourd'hui.
Mais, comment dire, quand j'énonce ces besoins, je vois toute la distance qu'il y a entre cette théorie et ce que j'ai moi-même vécu. Et nous avons des enfants formidables. Bon, et donc ils se sont contentés des parents qu'ils avaient. Je pense que les enfants font avec les parents qu'ils ont. Mais je vais quand même vous dire une chose, c'est que mon fils adolescent m'a quand même dit « C'est dommage que tu aies fait ta formation si tard. » Donc quelque part, on apprend quelque chose et ils le sentent.
On peut progresser. Thierry et Yaël, dites-nous, ancrez-nous dans un peu votre quotidien. J'oserais même dire votre intimité avec vos enfants, parce que vous avez noté un certain nombre de contraintes, de choses, de rôles que vous jouez par rapport à l'un ou à l'autre. Allez-y, je vous laisse la parole.
Alors, on pourrait vous raconter une journée à partir du moment où il y en a un qui se réveille de mauvaise humeur, l'autre qu'il faut emmener aux toilettes, préparer le petit déjeuner. Voilà, on pourrait faire des choses très concrètes. On a essayé quand même de définir un peu plus les enjeux qui se posaient pour nous, pour chacun des trois. Parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait vraiment une façon d'être parents différente pour chacun de nos trois garçons.
Pour Raphaël, comme je disais tout à l'heure, il aime beaucoup réfléchir. Et aujourd'hui, il a 8 ans. Et une des questions qui se pose vraiment pour nous, c'est comment le nourrir de ce côté-là, comment l'éduquer, sachant qu'il a un désir d'apprendre et une envie phénoménale, qu'on a des fois un peu de mal à suivre. Et donc, aujourd'hui, scolairement, c'est une question qui se pose. Comment arriver à le nourrir et à l'intéresser à tout ce qu'il voudrait et tout ce qu'il veut découvrir et qu'il voit autour de lui.
Et en même temps que cette réflexion-là, on se dit qu'il faut trouver un équilibre avec lui entre la dimension intellectuelle et les autres domaines physiques, artistique, spirituel, humain, social. Voilà. Donc, on a été amené à poser des choix pour lui, avec lui. Par exemple, le fait de changer d'école pour avoir une structure qui, justement, ne le pousse pas trop, mais lui offre d'autres nourritures. Bon, concrètement, c'est une école dans laquelle on parle toute la journée une autre langue. Donc, ça répondait à une curiosité de sa part. Et ça ne... On ne voulait pas en faire un petit surdoué, ce n'était pas du tout l'objet. Mais en même temps, il faut tenir compte de sa très grande curiosité. Et on a choisi une école beaucoup plus petite, dans laquelle il y a plus de chaleur humaine aussi, pour renforcer ce côté-là. Voilà. Après, ce sont des tâtonnements. On fait au jour le jour et on accompagne avec beaucoup de bonheur ce garçon. Pour Joachim, on a approfondi notre confiance en nous-mêmes en tant que parents avec le deuxième. On est toujours un peu plus cool hein, avec le deuxième. On est peut-être un peu moins sur le dos du bébé ou à répondre tout de suite, quoique. Et donc, Joachim a un caractère beaucoup plus fort et qui nous pose des fois des difficultés. Donc, concrètement, quand il vit une émotion, il la vit très très fort, mais très très fort. Donc, il crie de joie ou il se roule par terre, de colère. Voilà. Donc, ça ne se voit pas forcément au premier abord, mais pour nous parents, il faut chaque jour l'apprendre à vivre ses émotions, à les gérer, à tenir compte des autres. Et pour nous, quelle est la bonne attitude vis-à-vis de ça? Eh bien, on tâtonne beaucoup. Alors, on essaie de l'écouter, d'écouter les émotions qu'il a exprimées. À certains moments, voilà, d'être juste là et d'être à côté de lui quand il pleure, sans jugement. Et à d'autres moments, c'est absolument insupportable. Donc, voilà, on craque.
Avec le premier, on a fait la découverte de ce que c'est qu'être parent. Avec toutes les joies et toutes les difficultés que ça peut représenter. Donc c'est, comme disait Yael, c'est des tâtonnements. Mais ça l'est aussi au second. Même si effectivement, il y a plus de confiance en nous-mêmes. Et la relation avec les enfants, parce que ça se rapporte aussi à l'aîné, la relation change, il y a plus de... Là, pour le coup, je pense qu'il y a plus de liberté, il y a plus de confiance en eux et en nous-mêmes, et donc plus de facilité à les regarder grandir et à les voir évoluer. Et puis après, pour Albin, le troisième, ce qu'on avait envie de dire, c'est que toujours dans cette découverte, on est toujours devant le même émerveillement. Alors c'est peut-être la différence d'âge qui fait entre les deux premiers, il y a que 2 ans et demi, il y a 4 ans entre le second et le troisième, mais c'est toujours le même émerveillement, toujours la même découverte. Le moindre petit progrès est une grande joie et on surveille chaque jour tout ce qui est nouveau dans ce qu'il peut dire, dans ce qu'il peut faire, dans ses attitudes. Voilà, c'est toujours la même continuité en même temps dans le fait d'être parent devant nos 3 enfants.
Et on a progressé sur un point, c'est le sommeil des enfants. Alors ça a toujours été une difficulté dans notre famille. Alors on ne doit pas bien s'y prendre. L'alimentation, ça va très bien. Et alors le sommeil, donc on a des enfants qui se sont beaucoup, beaucoup réveillés la nuit. Et puis on s'est levé. Et avec le troisième, et ben ça va mieux. Donc au 17e, on se sera au top.
On peut vous applaudir pour cette sincérité, ces accents de vérité, c'est beau. Bravo. Vous pouvez réagir, poser des questions, apporter peut-être aussi de façon courte, je vous invite à faire court, un petit morceau de témoignage, de regard personnel. Une petite règle que je vous impose, c'est de parler dans le micro. Donc vous levez la main, je vous fais passer le micro et vous vous exprimez. Vous nous avez dit avec talent comment il fallait être parent, comment on l'était, mais j'ai pas bien senti l'aujourd'hui. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait aujourd'hui quelques spécificités. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vraiment les parents sont éduqués uniquement par les enfants sont éduqués uniquement par les parents? Est-ce qu'il n'y a pas l'intrusion de la communication précoce, d'Internet, etc., qui peut-être est un peu plus spécifique de notre époque que ce que vous nous avez dit, mais qui est un peu intemporel. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je ne sais pas si à la régie, on pourrait nous arranger... Non, c'est un peu fort parce qu'on fait du Larsen. On m'a dit que non. Bon, alors on continue comme ça. L'irruption des nouveaux moyens de communication dans les familles, dans les foyers, la présence de l'Internet qui, peut jouer un rôle supplétif dans l'éducation sans qu'on le veuille, d'une certaine façon.
Le père Petit Clerc dit que dans certaines banlieues, les pères ont été déparentalisés parce que justement, il y a le discours de la rue, le discours de l'école, le discours de la famille, le discours des médias et que comment s'y retrouver là-dedans et comment...
Moi, je voulais préciser que...
Parlez bien près du micro.
Ouais, je voulais indiquer que nous, à la maison, il y a effectivement l'apport extérieur de l'école, des copains, peu de l'Internet, parce qu'ils sont encore un peu petits, donc effectivement, c'est pas trop gênant. Pas du tout de la télé, puisque nous ne l'avons pas, donc ça c'est réglé. Mais après, c'est vrai qu'on essaye aussi de mettre en relief ce qu'ils peuvent vivre à l'extérieur par rapport à ce que nous on peut vivre en famille. Les repères que nous on peut donner dans le cadre familial, comment ils peuvent les voir à l'extérieur avec leurs copains, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'être. Il y a des choses que l'on sait qu'ils font à l'école, qu'on autorise à faire avec des copains, qu'on n'autorise pas à faire à la maison. Et c'est ça qui nous semble important, cette articulation entre... pour moi, c'est vraiment une notion de repère. C'est-à-dire qu'à la maison, il y a certains repères fondamentaux qu'on essaye de respecter, qui peuvent être les valeurs, qui peuvent être une façon d'être. et que l'on espère qu'ils s'appuient dessus pour être pour justement dans leur relation avec le monde extérieur.
Sûrement par rapport à Internet et la télévision, etc., il y a des règles évidentes, c'est-à-dire que Internet ne devrait pas être dans une pièce où les... Comment dire, où les enfants sont seuls, que jusqu'à 12 ans, il faut qu'on puisse regarder ce qu'ils regardent. À la télévision, ben c'est pareil, pas laisser un enfant seul devant un spectacle quelconque, à moins que ce soit un film, une bande dessinée, enfin, qui concerne très, très particulièrement. Mais sinon, les parents doivent veiller et vraiment mettre de l'ordre là-dedans, hein. Ça me paraît une évidence. Une évidence.
Je vous rappelle la règle, madame. Je suis père de famille. Je voudrais titiller un petit peu Thierry. Est-ce qu'on résout le problème en le supprimant? Par exemple, pour la télévision. Je me permets de vous le dire parce que je suis face au problème. Votre conseil, docteur.
Alors, je n'ai aucune étude de médecine, donc j'ai du mal. Le docteur, c'est elle. Mais le... C'est effectivement pas en supprimant le problème qu'on le résout. Mais je pense quand même que ça aide fortement... Dans la communication. Enfin, nous, on s'est posé plusieurs fois la question autour de la télé. Déjà, en tant que couple, on se dit que s'il y avait la télé, on aurait du mal à vivre ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de temps. Si en plus il y avait la télé, ça serait difficile. Et par rapport aux enfants, c'est vrai que le fait de ne pas l'avoir permet de vivre, je pense, d'autres choses qu'on ne pourrait pas vivre avec la télé. Après, on essaye aussi de discuter avec le plus grand en particulier sur ce qu'il peut voir à la télé chez les autres ou dans des jeux ou des choses comme ça. Et c'est là que la discussion elle s'établit, même si c'est effectivement pas facile. Alors il n'a que 8 ans, pour l'instant on arrive encore à discuter, on verra dans quelques années.
Vous aviez une réaction, après je donnerai à Claire qui voulait parler aussi. Allez-y.
Moi, je suis un peu sceptique. Aujourd'hui, je crois que beaucoup, beaucoup de parents mettent la télé dans la chambre des enfants. Enfin bon, vous, vous n'avez pas la télé, c'est bien, mais plus je vais, plus je vois la télé dans la chambre des enfants. Enfin, donc je ne sais pas... Enfin, moi, je suis contre, mais que peut-on faire? Oui, non, mais... Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous, mais comment faire, hein? Maintenant, vous avez 80% des gosses qui ont la télé dans la chambre.
Claire, vous vouliez parler, intervenir.
Moi, je voulais rajouter deux choses par rapport à la difficulté d'être parent aujourd'hui. Effectivement, les moyens technologiques se développent beaucoup, et je pense que c'est très important que les parents restent à la page, en fait, et qu'ils connaissent tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils soient au courant de ce qui se passe sur Internet, qu'est-ce que c'est que Facebook, qu'est-ce que c'est que le happy slapping, merci. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait sur Internet, qu'est-ce qui se passe dans le monde de nos enfants qui finalement est très différent du nôtre. Et donc qu'ils sachent se renseigner et se former auprès de personnes compétentes, donc que ce soit des informaticiens, des gens qui travaillent beaucoup sur Internet, auprès de journalistes qui peuvent un peu connaître tout ça, etc. Et deuxième chose, c'est l'importance de faire parler leurs enfants sur ce qu'ils font. Donc moi, je vois, pour en avoir discuté avec des ados, leur demander, qu'est-ce que ça t'apporte Facebook? Et effectivement, les adolescents qui disent, c'est vrai que je passe mes après-midi dessus, et finalement, je m'aperçois que je deviens complètement accro, je regarde combien j'ai d'amis sur Internet, alors que c'est des amitiés virtuelles. Et donc, je pense que c'est très important de les faire parler pour savoir qu'est-ce qu'ils retirent de ce qu'ils font, et de les faire réfléchir par rapport à ça, savoir si est-ce que ça leur apporte vraiment quelque chose.
Moi, il me semble que Internet, c'est un peu une référence pour penser la spécificité de l'aujourd'hui en tant que parent. C'est pas seulement Internet comme une réalité à laquelle on a accès, mais c'est même un mode de fonctionnement, c'est-à-dire que aujourd'hui on a accès à plein d'informations et elles ne sont pas triées, elles ne sont pas hiérarchisées. Et je crois que elles sont pas vérifiées effectivement, on trouve des choses contradictoires. Et en tant que parent, notre rôle devrait être d'aider les enfants, mais déjà de le faire pour nous aussi, à y voir un peu plus clair dans cette très grande multiplicité, complexité du monde. voilà, hiérarchiser, trouver les références, qui dit ceci, est-ce que c'est vérifiable, est-ce que c'est juste, est-ce que j'y adhère, voilà. Il me semble, et là je me permets de parler un tout petit peu en tant que prof, j'essaie d'aider les adolescents qui sont en face de moi à avoir ce regard un peu plus lucide, un peu plus critique sur la masse d'informations qui est déversée sur eux, par Internet ou tous les autres moyens de communication, et puis aussi bien au plan social, sentimental, voilà, ils vivent dans un grand magma, et devenir adulte, à mon avis, c'est un petit peu ordonner tout ça, s'y retrouver.
Bonsoir, je voulais revenir sur ce que vous disiez, sur la connaissance, de savoir ce qui se passait, et il y a pour moi dans l'autorité, je voulais vous poser une question sur l'autorité, est-ce qu'aujourd'hui, les parents qu'on a aujourd'hui n'ont pas oublié, ou même les grands-parents, que l'autorité, ce n'est pas simplement celui qui parle le plus fort qui a raison. L'autorité, je crois qu'il y a aussi celui qui sait, il y a la connaissance. Voilà. Et pour moi, je crois que c'est quelque chose qu'on oublie. On parle du retour de l'autorité, on parle de tout ça, mais quand vous ne connaissez pas, quand vous ne savez pas, ben vous vous énervez, vous parlez fort, et en fait, vous ne comprenez pas. Et on a des enfants, l'aîné a 15 ans, il arrive en seconde, pour arriver à comprendre aujourd'hui la seconde ce que c'est, on a beau dire, on a beau crier, on a beau gueuler, si on comprend pas comment ça se passe, comment ça s'organise, etc., on passe à côté. Voilà. Donc je me demandais si la crise, en fait, quand je dis au niveau des parents, c'était pas de confondre, gérer les différents types d'autorité qu'on peut avoir et le manque de connaissances. Et le monde d'aujourd'hui évolue tellement vite, on a tellement de choses à faire quand on est parent, mais qu'on n'a pas le temps de se poser, de se dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, je vais aller chercher mes informations où, etc. Et l'autre question aussi que je voulais vous poser, c'était, vous nous avez parlé des enfants, et est-ce qu'on n'est pas aussi à une crise de relations entre les parents? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y avait le rôle du père qui était, on va dire, qui était là pour fixer les règles et rappeler les règles. Mais quand je dis une crise de relation entre les parents, c'est que moi, on a une amie qui est seule, son mari est décédé, et le nombre de fois où on se dit, mais quelle chance on a d'être à deux et de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et le nombre de parents qui n'arrivent pas à discuter, à échanger, je crois, sur ce qui se passe dans leurs enfants, enfin dans la vie de leurs enfants, parce qu'ils sont écorchés à vif peut-être là-dessus, et que nous, peut-être que les parents aujourd'hui, ils ont besoin déjà de ça, de se retrouver à deux et de pouvoir échanger, de parler de leurs enfants et de prendre du recul par rapport à eux. Enfin voilà.
Oui, voilà. La difficulté d'être parent, c'est relativement assez simple. C'est d'entretenir avec l'enfant des relations de bon voisinage. Si vous n'arrivez pas à entretenir avec votre enfant des relations de bon voisinage, vous n'arriverez pas à faire des choses tout à fait cohérentes. Par exemple, le voisinage avec un très petit enfant a été décrit par Spitz. Quand l'enfant tête sa mère, et bien on s'aperçoit que son œil, son regard est fixé sur sa mère, sur le regard de sa mère. Et qu'à ce moment-là, on a donc un voisinage extrêmement étroit. Et la mère, elle doit avoir conscience justement de sa position dans cet espace de bon voisinage. Elle le fait, donne le sein. Naturellement, c'est pareil quand l'enfant est un peu très peu âgé, l'espace entre la mère et l'enfant s'agrandit un peu. Mais elle est quand même compréhensible. Ensuite, l'espace entre les parents et l'enfant s'agrandit encore, et ainsi de suite. Cet espace-là est plein d'activités, naturellement comme il vient d'être décrit, et Internet, la télé, sont une des activités. Il n'y a pas une seule activité à proposer à l'enfant, ce n'est pas on propose pas la télé, on ne propose pas Internet, l'enfant a le parent, et bien dans cet espace de bon voisinage, il peut présenter à l'enfant, proposer à l'enfant, lui permettre d'avoir accès à des activités différentes. Et c'est justement dans le choix de ces différentes activités que l'enfant se réalise.
Vous avez tout à fait raison, et tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est tout à fait juste, mais peut-être on peut prendre des choses différentes. La position des parents, elle est très simple. Les parents doivent être bienveillants. Tout le monde doit être bienveillant. Et dans cette position de bienveillance, eh bien, l'enfant se construit en douceur. On n'a pas à avoir des relations violentes avec l'enfant, on n'a pas des positions violentes avec l'enfant, on n'a pas à faire preuve d'une autorité violente avec l'enfant. On doit tout faire avec douceur. C'est dans la caresse, c'est dans la position amoureuse, réelle, c'est dans cette relation-là et dans cet espace de bon voisinage que les choses se passent bien. Attendez, attendez.
On va peut-être laisser la parole à d'autres, si vous le voulez bien. Même si c'est tout à fait intéressant ce que vous nous avez dit, le regard bienveillant, je crois que c'est ce qu'on retient de votre intervention. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à une réaction ? Madame, allez-y.
De par mon expérience, je dirais tout simplement deux choses. En éducation, plus on crie et moins ils ont réussi. Et que d'autre part, dans le bon voisinage dont monsieur a parlé, il y a de la bienveillance et il y a aussi la force de l'exemple que donnent les parents. Voilà, deux choses de par mon expérience.
Moi, je voudrais aussi partir de mon expérience et de l'expérience de mes enfants, puisque je suis mère et grand-mère d'une grande fille il y a 17 ans. Il me semble que l'on oublie un peu facilement les conditions de vie de la plupart des gens. La plupart des gens qui vivent souvent en grande ville, je ne parle pas des gens en Tarbes, la maman souvent travaille. Ça veut dire que l'on quitte la maison vers 7h30, que l'on met les enfants au collège ou à l'école primaire. Les parents partent travailler, parfois loin, avec des embouteillages, avec du stress, ils arrivent au travail, et le soir ils reviennent, il est 5h30 au plus tôt, 6h ou plus. Et là, il y a à superviser les devoirs des uns et des autres, il y a les emmener au foot, à la peinture, à la musique, il y a à s'occuper de la maison, du dîner, etc. Et il me semble qu'il faut tenir compte de toutes ces réalités-là, étant donné qu'il y en a aussi qui, malheureusement, eux, ne partent pas du tout au travail. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants voient aussi leurs parents qui, eux, restent à la maison. Autre élément qui me semble très, très important, c'est le fait que beaucoup de familles, puisque un couple sur trois ou même un couple sur deux se brise, on se trouve devant des familles décomposées ou recomposées. Et donc, c'est pas le père et la mère forcément qui sont avec les enfants, c'est la belle-mère, c'est le beau-père. Parfois, il y a des enfants de deux ou trois couples différents qui cohabitent. Et je crois qu'il faudrait aussi tenir compte de ces réalités qui sont les réalités massives. Voilà.
C'est le côté aujourd'hui, hein, de la table ronde que nous avons la joie d'entendre quand même, parce qu'il y a de la joie hein, dans tout ce que vous dites, même s'il y a toutes ces réalités difficiles qu'il faut prendre en compte. Yael, allez-y.
Je n'ai pas de solution, c'est pas ça. Mais c'est vrai que dans ces conditions qui sont particulièrement difficiles, et bien, je pense qu'il est important que les parents se soutiennent entre eux. Et on a besoin de soutien quand on est parent. Alors, pas forcément que entre parents, mais c'est vrai qu'on a besoin de soutien. On a besoin d'avoir nous-mêmes un regard bienveillant posé sur nous, en tant que parents imparfaits. Et parfois, on a peur du regard des autres. Je pense à la crise de l'enfant en plein supermarché. Voilà, vous avez sûrement connu ça. Et bien, je crois que dans la société, le rôle de parent n'est pas très valorisé par rapport à des professions. Mais c'est quelque chose qu'on peut tous améliorer un tout petit peu en se disant on se soutient dans ce rôle qui est formidable et qui est quand même... C'est pas toujours facile d'être bienveillant. Moi, c'est vraiment pour moi un mot d'ordre d'être dans la bienveillance. Et parfois, nerveusement, je ne reçois pas suffisamment pour pouvoir donner ce que je voudrais donner.
Nous on s'était dit comme thème important de la parentalité, c'est le fait effectivement de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. Quand il y en a un qui disjoncte, il y a l'autre qui peut prendre la suite. C'est vrai que ça aide. Et un autre point, on l'avait plutôt mis en conclusion de notre préparation, mais j'en profite, c'est que être parent, c'est aussi être deux adultes vis-à-vis des enfants. Et il faut savoir aussi se réserver des temps. Et ça, c'est des choses qu'on a appris avec le temps, justement, et puis avec l'arrivée des enfants petit à petit. Prendre le temps, vraiment à deux, en couple, de à la fois de réfléchir sur la vie de famille d'une façon générale, sur comment on éduque nos enfants, et puis avoir du temps pour nous deux, et uniquement pour nous deux.
Le couple est premier. Françoise Dolto disait, l'enfant est à la périphérie. Et il faudrait qu'il ait en face de lui, effectivement, un couple qui aime vivre ensemble, qui s'aime autant que faire se peut, bien sûr, et qui soit heureux de vivre, et qui, du coup, lui permet de respirer. Ça évite des couples mère-enfant, quand c'est un peu le danger quand une femme est seule avec son enfant. Je pense à une jeune femme qui disait « On est très bien tous les deux », en parlant d'elle et de son fils. Il est très réussi, mais j'espère que, bon, voilà, ça laissera la place à...
Madame Duborat, tout de même, je vais vous provoquer un petit peu, mais hors de ce schéma, il y a un salut quand même. Puisque ça veut dire que de fait, là, on exclut beaucoup de gens qui sont dans une toute autre situation que le schéma bien classique et bien propre sur le papier. Un couple uni qui regarde son enfant avec amour et qui va au travail le matin, mais qui rentre assez tôt le soir pour s'occuper de l'enfant, qui ne surcharge pas avec trop d'activités, qui dialogue, qui... On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas exactement...
Je crois que la vie est faite de choses pas faciles et que nous souffrons tous de quelque chose, de manques variés, et que c'est inévitable, et que les enfants font avec les parents qu'ils ont, et vous parliez de familles séparées, eh bien, ils souffriront peut-être de choses spécifiques dues aux difficultés qu'ils auront rencontrées, comme des enfants de familles très unies peuvent souffrir de pathologies variées parce qu'une famille trop étouffante, parce que voilà. Et j'ose espérer que tous les enfants de familles désunies seront des enfants réussis malgré les tempêtes qu'ils auront traversées, hein, et les manques éventuels dans tout ce que nous avons dit.
Justement, je voudrais vous demander, là, vous recevez donc en tant que conseillère familiale, vous recevez des parents, et j'imagine qu'ils ne viennent pas vous rencontrer quand tout va bien. Vous rencontrez des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Alors, justement, quelles sont les difficultés qui reviennent aujourd'hui? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses différentes par rapport à il y a une dizaine d'années, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses autres?
D'abord, je suis quand même de ce temps-là, hein. Donc depuis les années 90, les choses étaient déjà bien en marche. Donc c'est vrai que je pense à un couple qui est venu l'autre jour, je pensais vraiment à une toute autre difficulté, une toute autre problématique, et en fait, leur difficulté, c'était un petit peu de se retrouver en couple, un petit peu plus prenant du temps pour eux, face à des adolescents qui avaient grandi et dont le père avait envie de les voir prendre une plus grande autonomie et se retrouver un peu plus avec sa femme, alors que la femme était encore dans le « je maîtrise tout, je tiens tout, pas de conflit, je et du coup, surprotégeant ses ados. Je crois que c'est peut-être un peu une des difficultés aujourd'hui. Ils sont à la fois très abandonnés, parfois, dans ce que vous décriviez, la télé dans la chambre, les parents qui rentrent tard, etc. Et en même temps, on veut des enfants parfaits. Ils ont été voulus, choisis, presque, hein, presque à la sur commande, on dirait. Et ça peut être une difficulté nouvelle, ça, avec des attentes de parents beaucoup trop exigeante. Je lisais la semaine dernière, l'enfant devenu presque un objet n'étant pas un sujet, alors que il est plus rare, mais effectivement, il peut être considéré parfois comme un objet par les parents qui vont vouloir consoler des manques qui les habitent, combler leurs enfants de ce qu'ils ont eux-mêmes pas eu. Je pense à une jeune femme me disant, « Ah, moi, j'ai pas connu ça, donc je fais tout pour que mon enfant de 12 ans, ben c'est cette dame d'ailleurs, je n'ai pas connu ce bonheur d'avoir une maman disponible, donc je veux combler mes enfants de ma disponibilité, à la limite au point de les étouffer. Sinon, au niveau des enfants, je trouve que c'est en même temps très riche, les échanges sont plus grands qu'avant, et du coup c'est beaucoup plus exigeant. Hein, tu es au bout de la table et tu te tais. Vous me rappelez que mon père, alors que j'avais 40 ans, m'a dit un jour, tu arrêtes de dire mes papas, tu te tais et tu m'écoutes. Bon, ben, aujourd'hui, à 15 ans, un gamin, il va dire, je veux dire aussi ce que je pense, quoi. C'est-à-dire, on n'est plus dans cette relation-là. Et moi, j'aurais très envie de vous inviter de participer à des stages d'écoute. Apprendre à écouter et voir que, en apprenant à écouter, comment vous dire, c'est surtout ne pas. Il ne faut pas croire que ce soit entrer dans le désir de l'enfant systématiquement, mais au contraire, lui laisser dire son désir et prendre de la distance avec. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez le laisser être lui-même et après vous permettre de dire ce que vous êtes avec vos valeurs, vos croyances, etc. Je lisais encore tout à l'heure, ne pas avoir peur des désirs des enfants. Les désirs n'ont pas à être réalisés, ils ont à être entendus. Hein? Les caprices à l'époque, je l'aurais su, j'avais eu un caprice au supermarché comme ça, de rouler par terre. Eh bien oui, l'enfant a besoin qu'on entende son désir, ça ne veut pas dire qu'on va le réaliser. Bon, enfin, sinon, qu'est-ce qu'il va y avoir comme problème? Bon, c'est vrai que c'est plutôt des problèmes de couple, mais les enfants ne sont pas loin, ça, c'est évident. C'est évident.
La relation d'après qu'on va peut-être du mal, si effectivement les familles ne sont pas très unies, peut-être que ce sera la génération d'après qu'on aura du mal, parce que je... Oui, oui, on se souvient, ça.
Oui, moi, je voulais faire une réflexion sur les modèles. J'ai eu des parents divorcés, ça a été très difficile, et j'ai eu la chance d'avoir des modèles, c'est-à-dire des adultes autour de moi, et j'ai pu grandir, je pense que je suis à peu près normale, grâce à ça. Et je pense aussi que dans les couples actuels, si une maman est toute seule, si un papa a du mal, peut-être que proposer de donner des modèles à son enfant, des personnes qu'il puisse admirer, suivre, vivre des temps avec lui, ça me semble important.
Oui, des modèles. Être capable de dire à son enfant, là, moi, pour cela, là, je me sens pas de taille à t'aider, vu mon histoire, je peux pas t'accompagner, mais tu vas trouver quelqu'un pour en parler. Et quelqu'un à admirer, quelqu'un à imiter, je crois que c'est essentiel, effectivement. Merci. Et heureusement, on n'a pas de ses parents.
Oui, juste parler des familles séparées, parce que j'y ai pensé très fort quand vous avez évoqué cette complémentarité du couple pour pouvoir vivre la parentalité et être parent auprès des siens. Or, j'ai entendu Jean-Michel qui évoquait ces familles qui sont en rupture et qui peuvent être en vrac. Il est évident que tous ces parents qui se séparent, ce sont des couples qui se séparent, et il appartient à tous les professionnels qui les accompagnent au moment de cette séparation de leur rappeler qu'ils sont aussi des couples parentaux. Et à partir de là, il faut les aider. Les aider parce qu'ils sont en vrac, ils sont avec leur rancœur et en grande difficulté pour accompagner des enfants qu'on est en train de se partager. Donc la parentalité, elle est en grande souffrance dans ces moments-là. Ils peuvent être courts, ces moments, et ils peuvent être plus longs, perdurer dans le temps, avec des enfants qui sont pris dans des enjeux de loyauté, et ils sont en grande difficulté. Et cette parentalité, elle est un peu secouée parce que chaque parent a des valeurs, des modes de fonctionnement différents et le dialogue est difficile. Alors notre société offrent beaucoup de mains tendues. Ce sont des discours du mode judiciaire, du monde judiciaire. Ce sont les discours également et les aides apportées par les médiations familiales qui sont importantes parce que, justement, par amour pour leur enfant, ils essaient de surmonter leurs difficultés pour essayer de retrouver le chemin de la parentalité
de parents différents.
Qu'il n'y aura jamais.
Qu'il ne se dénouera jamais.
Oui, qu'il ne se dénouera jamais et qu'ils seront, ils seront en grande difficulté pour arriver à se retrouver et à pouvoir marcher main dans la main auprès de leur enfant. Donc ça, je tenais à l'évoquer parce que j'ai eu le sentiment, pendant les trois quarts de cette soirée, de vivre la parentalité dans l'idéal. Hein. Il y a ce que l'on dit, et puis il y a les actes posés et la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours méritait qu'on s'arrête un peu à travers divers témoignages.
Mais on peut voir aussi des parents qui se séparent et dont le couple est mort quelque part et qui restent père et mère. Et quand même, je trouve qu'on voit, bien sûr qu'il y a des pères qui sont perdus de vue par leurs enfants, mais je trouve qu'il y a quand même de gros efforts de fait quand même dans ce sens-là. Et on voit des parents qui quand même essaient de maintenir cette... ben, leur paternité et leur maternité, même dans la tempête du divorce, on en voit.
Vous parliez des mains tendues, des structures qui peuvent exister, peut-être pour accueillir, entendre, écouter, apprendre à écouter. Mm-hmm. Quelques mots sur le clerc. J'ai promis tout à l'heure qu'on dirait juste quelques mots. Vous êtes conseillère conjugale au clerc, ce n'est pas anodin.
Centre de liaison des équipes de recherche sur l'amour et la famille, qui a maintenant 45 ans d'existence, et qui a démarré quand entre autres sur les problèmes de contraception, quand la contraception a déboulé, ils se sont penchés sur les méthodes naturelles de régulation des naissances. Ils se sont occupés des couples et quand ils ont vu les difficultés des couples, ils se sont dit qu'il fallait s'occuper de la jeunesse en amont. Et c'est là qu'ils ont travaillé à l'éducation affective et sexuelle des jeunes. Et donc, le clerc dispense une formation tant au niveau du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Dans un premier temps, pour être éducateur à la vie, donc pour pouvoir rencontrer des jeunes, des enfants et des jeunes et des grands adolescents autour des problèmes sur la sexualité et l'amour. Et après, cette formation est suivie par une formation de 3 ans sur le conseil conjugal et qui fait partie des tiers qui peuvent aider. Vous avez parlé de médiateur et c'est vrai qu'un couple en difficulté peut se retrouver chez un tiers pour régler les problèmes autour d'un enfant. Et je crois que c'est une ouverture, une richesse, une main tendue parmi toutes celles dont vous parliez, de ne pas rester seul quand on est en difficulté. Quoi. Et particulièrement à l'adolescence, quand on est en difficulté avec un adolescent, introduire du tiers, quelqu'un qui n'est pas de la famille, que ce soit d'ailleurs un professeur, un conseiller d'orientation, un psychologue, ça peut être des gens variés, un grand-père, un oncle, et pouvoir parler à plusieurs, échanger, c'est une richesse. Mais bon, je ne suis pas pessimiste quand même quant aux familles d'aujourd'hui. Comme disait ma jeune voisine, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore, on ne voit pas le poids des conséquences de ce qui se vit aujourd'hui. Mais j'ose espérer que se lèveront des adultes avec leurs blessures, comme d'autres auront d'autres blessures, mais voilà, qui seront les leurs.
Il y a quand même des progrès par rapport à la génération d'avant, notamment je pense à tout ce qui est tabou. Je pense que la génération qui était avant nous parlait, enfin il y avait beaucoup de thèmes qu'elle n'abordait pas forcément, alors que maintenant ce sont les thèmes qui sont abordés. Et du coup peut-être que ça pourra faire évoluer les choses aussi.
C'est un sujet inépuisable. Alors je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais j'espère Claire qu'on n'a pas cassé votre rêve. Non, ça ira. Oh. Il y a encore une question.
Oui, c'est pas une question, mais pour Yaël et Thierry, bon, vous avez parlé, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit sur, vous avez successivement parlé de chacun de vos enfants, et puis que, j'ai jamais eu d'enfant, donc j'ai aucune expérience, mais je m'aperçois que vous êtes un couple qui apparemment marche bien, Et puis, c'est quand même très difficile, quoi, d'élever des enfants. C'est très difficile. C'est... Bon, et vos enfants, ils sont pas perturbés. Ils sont dans une famille qui est bien. Voilà. Bon, et pourtant, c'est difficile. Donc, alors, est-ce qu'il y a des lieux où ça s'apprend? Non, il n'y a pas de lieux où ça s'apprend, bon. Mais est-ce que, je me disais, est-ce que c'est sans doute important, est-ce que des parents comme vous puissent parler avec d'autres parents? Est-ce que ça se passe? Est-ce que ça serait intéressant, justement, qu'il y ait ces échanges, bon, non pas quand il y a des difficultés, mais dans la vie quotidienne, rien n'est simple, apparemment. Et donc, c'est peut-être intéressant qu'il y ait des groupes de parents comme ça qui parlent tout simplement de ce qui se passe chez eux.
Votre intervention a suscité un nombre de... Alors là, comme relanceur extraordinaire. Je vous donne la parole. Attendez, vous avez été interpellé. Il y a des lieux de rencontre entre parents pour échanger en dehors de l'urgence. C'est après ce que j'ai compris.
Oui. Il y a des structures qui existent. Bon, quelqu'un a parlé de l'école des parents. Voilà. Moi, je n'ai pas participé à ces rencontres-là. Mais avec des amis, on a créé ces petits moments-là, par exemple. Et, alors, je ne vais pas faire de la publicité pour une association qui, en ce moment, est en train de disparaître. Mais nous, on s'est fait... des tas de rencontres entre parents, particulièrement entre mères, et ça m'a énormément aidé à découvrir d'autres façons de faire que je ne soupçonnais pas, des lectures, des... Voilà. Donc, quand je disais tout à l'heure, on a besoin de soutien, on a besoin de partager nos difficultés, mais aussi nos joies, et de partager des bons moments entre parents, enfants... Et je veux juste te dire que c'est un très grand bonheur d'être maman, que si, voilà, je peux témoigner de ça, malgré les petits défis au quotidien, c'est quand même une aventure exaltante. Voilà. Et on est tous imparfaits, mais on fait tous un boulot formidable.
Thierry va nous dire son grand bonheur d'être papa aussi. Non ? Oui. Alors, à qui le tour ? Ça va être difficile de trouver un ordre qui soit juste. C'est peut-être vous, oui, qui avez levé le doigt le premier.
Ah, merci. Non, je voulais simplement dire qu'il existait effectivement, par exemple, à Tarbes, des chantiers éducation. Donc, ça existe au niveau d'une association familiale que vous connaissez peut-être. C'est l'association familiale qui réunit les familles catholiques. Voilà, donc AFC. Cette association vit au sein du mouvement familial, de façon générale, l'UDAF. Union départementale des associations familiales. Bon, au sein des AFC, on a lancé il y a 3 ans, on a relancé, parce que ça existait, on a relancé 3 chantiers éducation. Ça réunit des mères de famille de façon assez structurée pour ne pas perdre son temps et pour que ces partages soient efficaces et justement permettent de grandir dans l'exercice de la parentalité. Donc, je donne un exemple. Une animatrice de chantier va préparer une réunion, va remettre un questionnaire à chacune des mères de famille qui participent à ce chantier, et c'est au sein de la famille, père et mère, que l'on va essayer de réfléchir à ce questionnaire, et c'est au cours de la réunion avec les mères de famille qu'il va y avoir ces échanges qui sont très très riches. Voilà.
Je trouve bien sympathique les parents qui ont l'air très très bien. Mais ce petit second m'intrigue un peu. Je vais faire la psy de bazar, si vous permettez. Je trouve qu'il est dommage, quand on est parent, de très vite mettre des étiquettes sur la tête de nos enfants. L'aîné est comme ça, le second est comme ça. Je trouve que tous les jours, ils sont prêts à changer. Et votre petit colérique, par exemple, ou votre aîné très sage... Demain, je trouve qu'ils peuvent déjà se confondre et se compléter. Et c'est peut-être un défaut qu'on a, nous parents, on a envie de se situer et de faire ceux qui comprennent tout. Et je sais pas, le second, faites attention au second.
Je vous rassure.
J'en avais une comme ça.
Je vous rassure, j'ai peut-être fait des raccourcis un peu rapides, mais ils savent chacun prendre leur place et prendre la place de l'autre sans et inverser les rôles quand ils ont vraiment envie.
À propos de psy, nous sommes allés voir un psychiatre avec le deuxième pour régler un petit problème. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années parce que tout simplement, voilà, ça s'était jamais présenté, mais donc il n'y a pas de difficulté pour nous à aller voir aussi quelqu'un d'autre, un tiers, quand on n'arrive pas à résoudre quelque chose.
Quand tu te comportes comme ça, tu sembles vouloir me dire quelque chose, là, et j'arrive pas à comprendre, et on va en parler peut-être avec quelqu'un qui s'y connaît. Et je lisais un enfant qui a dessiné 3 fois chez la psychologue et qui a réglé sa petite difficulté.
Moi, je voulais faire une remarque, pas tellement une question. C'est, comme disait Jean-Michel, ça a l'air difficile d'être parent, et c'est vrai que c'est difficile d'être parent, malgré le fait qu'il y a l'école des parents, on n'apprend pas toujours facilement à le devenir, et on n'apprend pas non plus à être grand-mère. Et on est content d'avoir éduqué ses enfants et qu'ils partent, et puis après on se retrouve avec le problème d'être grand-mère, et c'est une parentalité qui demande aussi beaucoup d'apprentissage.
Et on apprend sur le tas. Ça s'apprend pas à l'avance, on apprend en marchant.
Mais c'est juste ce que vous dites, oui, il y aurait vraiment là aussi une autre soirée organisée sur la grand-parentalité.
Voilà, donc en partant de l'observation et surtout dans mon domaine qui est l'éveil à la fois des petits-enfants, on essaie donc de mettre en place sur le diocèse des groupes de parole pour les parents, des groupes de rencontres pour justement que les parents puissent s'entraider à élever leurs petits avec certains repères. Voilà, donc une expérience a été tentée sur Maubourguet et j'espère qu'elle pourra s'étendre dans bien d'autres endroits. Voilà, et donc une information avait été donnée avec les chantiers d'éducation. Dans certains parents sont partis, certaines mamans ont rejoint les chantiers d'éducation, mais tout le monde ne rentre pas dans les chantiers. On a essayé de mettre en place autre chose pour pouvoir accueillir justement d'autres parents et puis voilà, des parents pas toujours parfaits.
Et si on veut des renseignements sur ce que vous dites, comment fait-on? Auprès de qui on peut savoir ce que vous avez fait cette faut téléphoner à qui?
On téléphone au service diocésain de la catéchèse.
Voilà, c'est là que se situe l'éveil à la fois.
Vous avez parlé de la relation de parents, mais commence souvent quand l'enfant est encore dans le ventre de la mère. Et déjà, cet aspect-là est parfois pas assez mis en évidence. Et également au moment de la naissance, puisque ce moment-là est crucial et parfois surmédicalisé pour quelque chose qui est normal.
Souligner l'importance et de la grossesse et de la naissance, de la venue au monde, qui vous paraît en ce moment trop médicalisé, trop...
Et peut-être que Claire peut nous dire deux mots, là.
Non, mais effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour nous que la parentalité doit commencer au moment de la grossesse, puisqu'il y a un lien qui se constitue entre... Enfin, au moins un lien assez fort entre la mère et l'enfant. Et déjà, le fait de... on peut être déjà parent responsable à ce moment-là, donc par exemple pour la mère, de savoir ne pas faire trop d'excès pour le bien de son enfant, de savoir manger équilibré, dormir, etc., tout simplement pour le bien de son enfant, c'est déjà pas mal.
Et on peut dire que le papa joue son rôle s'il s'occupe de la maman comme il faut.
Nous, on peut peut-être donner un témoignage... Par rapport à ça, effectivement, notre seconde aujourd'hui, pour le second, on a fait le choix d'un accouchement à la maison, justement, non médicalisé, et avec un accompagnement d'une sage-femme diplômée. Et c'est vrai que ça s'est fait dans un contexte très différent, dans le sens où on a eu un temps et un apaisement pendant ce moment, qui est un moment très fort, autant pour la maman que pour le papa, je vous garantis. Et c'est vrai que ça a permis de prendre du temps, ça a permis de voir l'accouchement sous un autre angle. Pour le premier, c'était le premier, avec les émotions que ça peut comporter, avec un peu la peur et l'angoisse qu'il peut y avoir. Le second, ça nous a permis de le vivre avec ce repos et cette tranquillité, et le troisième qui s'est fait à la clinique, on est arrivé avec, avec l'envie de revivre ce que l'on avait pu vivre au, dans le calme du second, et ça s'est passé vraiment très, très simplement, et c'est vrai que c'est un moment qui est très fort et qu'on a vraiment vécu pleinement.
Dans notre témoignage, il n'y a aucun jugement par rapport aux personnes qui font des pratiques différentes. Je voulais juste le dire. Et aussi, vous, quand on vous offre le témoignage de ce que nous vivons, c'est vrai qu'il est important de ne pas mettre d'étiquette sur nos enfants. Voilà. Nous essayons de ne pas en mettre. Alors forcément, on a mis des mots pour vous offrir ce reflet-là. Mais c'est vrai que la vie, elle est mouvante, elle n'est pas définie, elle est toujours en croissance.
Oui, alors moi j'avais juste envie de dire un petit mot sur le fait que ces enfants en fait que l'on aime, que l'on désire et que l'on veut accompagner tout notre cœur et toute notre âme, ils nous sont confiés et qu'ils ne nous appartiennent pas quand même. Et je trouve que c'est tout à fait rassurant de se dire que bon, en fait moi des fois avec deux des quatre là, qui sont vraiment pleinement ados, qui n'en finissent pas d'être ados, je me dis mais je suis que leur mère et voilà, et ils sont dans la main du père.
Écoutez, on va s'arrêter sur ce que vous dites.
On peut les applaudir.
Merci à vous. À bientôt.